travail d'introduction à la pensée d'Derrida, ce qui est, comment dire, impossible en un sens dans le temps qui nous est imparti, il faut le dire, hein, mais donc de manière très modeste, très, j'espère, recevable, de manière audible, hein, dans le temps d'une demi-heure peut-être d'intervention, un petit peu moins peut-être, je sais pas, un peu plus. Et je voulais le faire à partir de la question du don en particulier, qui me semble un bon point d'attaque, hein, une bonne façon, une bonne entame, hein, pour accéder bon, à un certain nombre de thèmes en même temps, d'enjeux centraux dans la réflexion de Derrida, quoi. Et peut-être y arriver d'une manière assez. Assez concrète à beaucoup d'égards. Alors, je voulais partir d'une citation tirée d'un texte de Derrida, d'un livre de Derrida, Donner le temps. Citation au début du texte. Et il nous dit: pourquoi et comment puis-je penser que le don est l'impossible? Et pourquoi s'agit-il précisément ici de penser, comme si la pensée, le mot de penser, ne s'ajustait qu'à cette disproportion de l'impossible, ne s'annonçant même comme pensée irréductible à l'intuition, irréductible aussi à la perception, au jugement, à l'expérience, à la science, à la foi, que depuis cette figure de l'impossible? Depuis l'impossible dans la figure du don. Bon. Un peu dense. Alors. Alors. Je vais faire les choses simplement, j'espère pas trop simplement non plus, mais. Bon, en tout cas, il y a peut-être une proposition qu'on peut retenir, qu'on doit retenir, celle dont je voudrais partir moi-même, du coup, qui est que le don est l'impossible. Le don est l'impossible. Voilà. Alors, il s'agirait de réfléchir un peu l'impossible, ce qui peut-être est impossible à penser, justement. Bon. Alors, quand on parle du don, partons simplement, on désigne d'emblée deux choses, à la fois le don comme chose donnée, hein, et le don comme donation, quoi. La chose que je donne, peut-être, et puis l'acte, hein, de don, quoi. Qui donne sens à la chose que je donne, hein, en tant que justement elle porte mon don. Et le don implique, il y a un élément absent quand je dis ça, implique trois termes classiquement, à savoir celui qui donne, hein, la chose qu'on donne, et puis l'autre à qui l'on donne. Donc quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre. Bon, alors ce quelqu'un, évidemment, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un groupe, pourquoi pas. L'autre aussi, hein, peut-être une personne, un groupe, peut-être une institution. Et la chose que je donne peut être une chose, mais aussi un objet symbolique. Bon. Alors. Derrida pense que ces trois conditions-là, hein, qui font qu'un don est possible, ce sont justement les conditions qui font qu'un don est impossible. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette évidence même, hein, ou à même cette évidence de ce qu'est un don, ou de ce que suppose, au titre de ces conditions de possibilité, un don, c'est cette évidence-là, au fond, qu'il s'agit de mettre en question, d'interroger. Voilà. Ces conditions, hein, donc, pour qu'il y ait don, il faut trois éléments, que quelqu'un donne quelque chose à un autre, quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, j'avais noté que, il va même jusqu'à dire que ces conditions-là produisent la destruction du don. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un événement de don, alors ? Qu'est-ce qu'un événement de don ? Ben, on peut dire que quand on parle du don, on se rapporte à l'économie, d'une manière négative peut-être, mais on se rapporte à l'économie. On se rapporte à l'échange. On se rapporte à tout un jeu qui est celui d'une circulation. Mais sur un mode, on peut dire négatif. Parce que le don, c'est ce qui justement interrompt l'économie. Le don, c'est ce qui interrompt le calcul. Le don, c'est justement ce qui ne donne plus lieu à l'échange. Sinon, on n'est plus dans du don. On est dans du calcul économique. On est dans une logique de l'intérêt, de l'intéressement, etc. Bon, donc le don, c'est justement ce qui met en cause tous les rapports d'équivalence, de symétrie, et toutes les constructions symboliques auxquelles elles peuvent donner lieu, quoi. Bon. Donc du coup, pour qu'il y ait don, on peut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de commune mesure. Il ne faut pas que ce que je donne, au fond, puisse évaluer que moi-même, je l'évalue, quoi. Dans l'attente d'un retour, d'un équivalent. Sans quoi je ne suis plus dans du don. Je suis dans l'échange, je suis dans l'économie. Bon, le don, il est sans retour escompté, quoi. Bon, donc le don, une espèce de figure négative, on peut dire, de l'économie. Derrida nous dit il est anéconomique. Bon. Alors, c'est ici qu'on commence à rentrer dans le régime du paradoxe déridien, c'est-à-dire d'un paradoxe qui est un paradoxe sans solution. C'est ici que le don devient l'impossible, c'est-à-dire c'est l'impossible mais c'est pas impossible. C'est la nuance qui est très importante en fait. Alors pourquoi on rentre dans un paradoxe qui devient un paradoxe absolu ? Et parce que pour qu'il y ait don, il faut que le donataire ne rende pas. Il faut que le donataire ne rende pas. Il faut qu'il ne le rembourse pas. Il ne faut pas qu'il contracte de dette ou qu'il vive le don comme une dette. On doit même dire que le donataire, au fond, se doit à lui-même de ne pas rendre. Si j'adresse quelque chose, si j'adresse un don à quelqu'un, et qu'immédiatement il enregistre sur le mode d'une dette à mon égard, je ne suis plus dans du don. Le don est annulé par lui, en tout cas. Bon, donc, le donataire, au fond, Derrida va nous dire, a le devoir de ne pas devoir. Et du coup, en retour aussi, le donateur lui-même, il a le devoir de ne pas escompter la restitution. Ouais. Moi qui reçois, j'ai le devoir de ne pas m'éprouver dans le devoir à l'égard d'autrui. Bien, alors à partir de là, on peut dire que le don, dès lors, il ne doit pas être reconnu comme tel. C'est là qu'il y a un saut qu'il faut comprendre. C'est que le don ne doit pas être reconnu comme tel parce que si le don ou le présent, j'y reviendrai, sont reconnus, est reconnu comme don, alors il est annulé. Il est annulé pourquoi ? Parce que si le don est reconnu comme tel, alors je vais tomber, retomber dans une autre forme de circulation économique, mais qui va être ici une économie symbolique. Une économie de la renaissance, quoi. De la reconnaissance, pardon. Ouais. Je vais retomber dans une économie, dans un jeu d'équivalence. Je te prête, tu me rends. Mais ici, sur un plan qui va être le plan, un plan psychologique, un plan symbolique, avec tout un tas de rétributions possibles. Alors ici, ça va être vous voyez, la reconnaissance, hein, tous les jeux de reconnaissance, hein, qu'on pourrait escompter, hein, dans le fait de donner. Mais dès lors qu'ils sont escomptés, on n'est plus dans du don, justement. Bon. Alors, toute cette économie, toute cette façon de se payer, hein, une reconnaissance symbolique, de se féliciter, de se gratifier, du don que j'adresse à l'autre. Oui, bien, c'est une façon, justement, d'éviter, au fond, le don. Hein, ce qu'il y a en jeu dans le don. Alors, c'est pour ça qu'à la limite, comme dit Derrida, le don, à la limite, le don comme don, hein, devrait ne pas apparaître comme don. Ni au donateur, ni au donateur. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut être don qu'en n'étant pas présent comme don. Bon. Alors. C'est une pensée assez difficile, le soin de endurer, mais. Je voudrais. Comment dire, poursuivre un petit peu, endurer un petit peu cette contradiction du don. Parce que sans donateur qui se reconnaisse comme tel, qui se sache comme tel, qui s'identifie comme tel, sans don qu'on puisse reconnaître, sans donataire, qui puisse aussi se reconnaître comme tel. Bon. Un don impossible, effectivement. Qu'est-ce qu'un don? Qu'est-ce qui fait don? Qu'est-ce qu'un événement de don? Alors, ici, l'idée, c'est peut-être d'insister sur la dimension de l'événement et la dimension temporelle du don. Hein, ce qui s'engage du temps. Bon. Qu'est-ce que ce temps du don? Autrement dit, qu'est-ce que faire un présent? Faire un présent. Étant entendu que le mot présent ici ne doit rien au hasard. Bon, mais le concept classique, hein, du temps, le temps de la montre, hein, renvoie à une conception du temps comme cercle. Alors. Au fond, il ne pourrait y avoir don qu'à l'instant où une effraction aurait lieu. Une effraction au sein du temps. Au sein du temps perçu, vécu comme sur le mode du cercle, de la circularité. Et du coup, ce moment de l'effraction, cet instant d'effraction du cercle temporel, ne devrait pas appartenir au temps. C'est-à-dire qu'au fond, on n'aurait jamais le temps d'un don. On n'aurait jamais le temps d'un don. Et là encore, hein, si on pousse les choses plus loin, hein, comment dire, tout ce qui relève de la temporalisation du temps, c'est-à-dire phénomène de mémoire, d'anticipation, de rétention, de protension, etc. Toutes ces dimensions engagent un processus qui est celui vraiment d'une destruction du don. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la garde, on est dans la restitution, on est dans la reproduction, dit Derrida. On est dans la prévision. Bon. C'est-à-dire qu'on anticipe, on possède par avance, on retient. Bon. On prend, on comprend d'avance. Et dès lors qu'on comprend d'avance, ou qu'on retient, comme une chose possédée, mais le don et le présent qui l'engage ont disparu. Donc Derrida va être conduit à dire qu'il s'agirait dès lors d'oublier le don. D'oublier le don, il s'agirait d'un oubli absolu. Absolu, c'est-à-dire ce qui nous détache, ce qui nous détache, ce qui nous délie, mais radicalement. Donc cet oubli absolu du don, mais qui serait le don lui-même, qui serait en un sens une condition du don, en un sens, condition de l'événement du don, cet oubli, au fond, n'aurait même pas de rapport avec un refoulement au sens où la psychanalyse l'entend. Sans quoi on retomberait dans une autre économie, insue, mais enfin une économie quand même, qui engagerait aussi tout un échange symbolique, toute une économie de l'imaginaire et du désir, finalement, certains sus, certains conscientes, mais une économie quand même. Bien. Donc il s'agit pas ici d'un oubli qui renverrait à l'oubli tel que type d'oubli du type du refoulement, quoi. Bon. Alors, cet oubli, néanmoins, Derrida insiste et dit que il dit oubli, mais il ne dit pas rien. Aussi radical que soit cet oubli, au fond, ça n'est pas une non-expérience. Ne renvoie pas à un rien comme non-expérience. Cet oubli du don. Alors, cet oubli du don, ce don comme oubli, au fond, que donne-t-il à penser? Qu'est-ce qu'il donne à penser? Bien, l'oubli du don, pour Derrida, au fond, serait le don lui-même. De sorte que l'oubli du don serait le don l'oubli. C'est-à-dire que don et oubli, Derrida a une formule comme ça, il dit, seraient dans la condition l'un l'autre. Voilà. Ils seraient dans la condition l'un l'autre. Alors, du coup, s'il s'agit de se rapporter au concept du don, de présent, c'est-à-dire à ce qu'il donne à penser, c'est-à-dire peut-être à la pensée elle-même comme don, comme événement, d'un don, Heidegger dirait du Esgypte, il y a événement de pensée. Eh bien, nous nous rapportons à l'impossible même, à l'impossible, à ce qui ne peut pas se laisser saisir, c'est-à-dire concevoir. Il s'agit de se mesurer, essentiellement, à l'incommensurable même, à du sans mesure. Ça passe la mesure absolument de tout ce qu'on peut saisir. Bon. Mais c'est ça l'impossibilité du don, si je puis dire. C'est-à-dire l'événement du don. C'est. Comment dire? C'est pour ça qu'il y a sens du don. Il y a sens du don, justement parce que ça excède tout le régime de ce que je peux maîtriser du sens. Voilà. Ou de ce que je peux reconnaître de l'autre. De la même façon, il y a rapport à autrui parce qu'il y a cet excès sur ce que je peux escompter de l'autre et de moi-même. Ce que je peux en savoir, ce que je peux en comprendre. Et il y a donc dans cet excès même. Mais c'est donc l'impossible. C'est pas impossible. Ça, on peut dire, c'est délicat, mais il y a du don, peut-être il y a du don. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un rapport, s'il y en a, c'est un rapport à l'impossible même. Je voulais, parce que j'ai conscience, c'est un peu tendu quand même, je voulais faire un lien avec l'intervention de, voilà, comme ça, simplement avec l'intervention de Jean-Luc Nancy, qui a fait une réflexion notamment sur le désir, sur le sens, hein, c'est une réflexion sur le sens qu'il avait menée. Et il a vu cette phrase à un moment que j'avais notée, disant qu'il n'y a de l'échange qu'à la condition que l'on ne se comprenne jamais. Il y a de l'échange qu'à la condition qu'on ne se comprenne jamais. Alors bon, peut-être on pourrait discuter là, peut-être cette idée d'échange, peut-être justement l'idée c'est quelque chose qui ne s'échange pas. Bon, mais. Il y a rapport à l'autre, hein, dans la mesure où on s'adresse en l'autre à son incompréhension, hein, à ce qu'on n'en comprend pas, à ce qu'on n'en saisit pas. Bon. C'est bien l'idée ici qu'essentiellement il y a un rapport à l'impossible même, quoi. À quelque chose que je ne peux pas évaluer, mesurer, dont je ne peux pas décider en fonction d'un certain nombre de raisons, que ce sont des raisons que je pourrais exposer, hein, exhiber. Au fond, bon, cette question du don, je vais rapprocher un peu d'une réflexion sur le désir, enfin, mais le lien me semble assez clair, assez reçu ici. Si je savais, je pouvais décider d'avance, finalement, bah, que l'autre, hein, je reviens sur cette question du donataire, du donateur, bah, que l'autre est bien identifiable, hein, qu'au fond, que l'autre, le désir que je vais lui adresser, il ne risque rien à mon désir. Parce que je saurais très bien où va mon désir, je saurais très bien que mon désir va rencontrer ce qu'il va rencontrer, hein, la façon dont il va être satisfait. Si l'autre, du coup, était... si l'autre n'engageait aucun risque dans mon désir... Si, au fond, j'étais certain que mon désir s'adresse bien à l'autre. Mais il n'y aurait pas de désir, en fait. Il n'y aurait pas de désir. Il faut bien qu'il y ait, chez ce que j'ai appelé tout à l'heure le donataire, il faut bien qu'il y ait, pour le moins, un tremblement, mais un tremblement essentiel dans ce qu'on appelle son identité, dans ce que j'en perçois, pour que quelque chose comme un désir puisse se risquer à s'adresser à lui. Mais cette adresse, c'est une adresse... Vous voyez, c'est une adresse qui a du mal à identifier, hein, à identifier son destinataire. Hein. À qui je donne? Mais c'est justement parce que le donataire, je ne peux pas la raisonner, au fond, hein, dans son identité, que je peux lui donner, peut-être. Ouais. Bon. Ben, de la même façon, c'est bien en m'adressant, hein, à, comme disait Jean-Luc Nancy, comment dire, à l'incompréhension, hein, que j'ai la possibilité qu'il y ait une rencontre, hein, dans le désir. La possibilité, hein, la possibilité, mais la possibilité même de l'impossible, quoi. Bon, je voulais pas aller tellement plus loin tout seul en tout cas. Voilà. J'ai pas fait attention au temps. Oui. Bon. Toutefois, j'étais beaucoup trop long. Donc... Il y a des choses dont vous voulez parler, qui vous semblent troubles.
Vous interrogez? Parce que je n'ai pas compris quel était le livre de Derrida que vous utilisiez. Quel est...
Oh là, j'ai fonctionné... J'ai fonctionné sur donner le temps.
Comment s'appelle-t-il ?
Donner le temps. Donner le temps. Donner le temps, la fausse monnaie.
Je suis sur le temps.
Donner le temps.
À donner.
Donner le temps.
Donner le temps. Mais parce que je n'ai pas lu. Donc je sorte que ce n'est pas. C'est uniquement par curiosité. Je le connaissais. Parce que ce n'est pas une étude spéciale sur le don, alors qu'à ce sujet, c'est un cours. Un séminaire.
Oui, il a rassemblé ainsi, plusieurs interventions qu'il a faites. C'était un cours, je crois, en
parce
quatre.
J'ai été intéressé par cet aspect qu'avait le don dans ce que vous reliez à l'impossible. C'est un trait, effectivement, assez commun chez Derrida, qui fait qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine manière chez lui d'aborder les problèmes, toujours quand ils sont, vous avez dit également très heureusement, quand il présente un excès, quand il frise l'impossible, qui de quand ils ont la dimension qu'il appelle l'hyperbolique. Il en parle quand il parle de l'hospitalité, qui a un grand rapport avec le don, d'ailleurs. À propos du don, également, on pourrait dire qu'il passe à cet aspect de l'hyperbolique. Lorsqu'il parle du pardon aussi, qui n'est pas, le pardon n'est pas non plus en relation, à mon avis, avec le don. Et si je me souviens bien, lorsqu'il a fait une étude du pardon, c'est précisément en affirmant que la seule chose qui puisse être pardonnée, c'est l'impardonnable. Donc c'est bien effectivement à la limite toujours que nous porte sa pensée et toujours dans les voies d'une logique paradoxale. Donc ce qui a peut-être été au centre de sa, de son analyse et de son, de cette conception du don, de cette notion de don, qui a un rapport, donc, à mon sens, avec d'une part l'hospitalité, dans la mesure où elle n'existe que lorsqu'elle dépasse les domaines du droit et qu'elle entre dans l'hyperbolique, c'est-à-dire le fait de donner l'hospitalité avec le risque précisément que cette hospitalité ne soit interdite par la loi, donc c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment hospitalière. Et dans le don également, il y a quelque chose qui est l'hyperbolique, puisque comme vous le dites fort bien, c'est quelque chose qui dépasse totalement l'attente d'un échange, d'une réciprocité, et qu'elle entre dans le cadre justement de cet excès qui caractérise également un geste comme celui du pardon. Donc on aurait là en fait trois éléments d'une sorte d'anthropologie philosophique qui serait construit autour du don, autour du pardon, autour de l'hospitalité, qui dessinerait un peu. Il y en a d'autres d'ailleurs. Je crois que là il y a une sorte de groupement qui serait possible. C'était la première remarque. La seconde remarque que je ferai, c'est qu'effectivement cette idée n'est pas uniquement dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la philosophie pure, puisque l'analyse du don, la mise en évidence du don, la différence essentielle que le don introduit dans l'anthropologie, c'est dans l'essai sur le don de Marcel Mauss, on le trouve, et précisément en relation avec la constitution d'une économie qui est autre chose qu'une économie d'échange. Mais je pense que Marcel Mauss va aller juste assez loin, effectivement, dans le fait de montrer l'originalité d'une économie du don sur l'économie d'échange, en disant justement que pour comprendre ces phénomènes du don dans les sociétés primitives, il faut échapper à l'idée ancrée de ce qu'on a appelé pour l'homme moderne l'homo economicus. Ce n'est plus un homme économique, c'est quelque chose d'autre, donc c'est un mode d'approche anthropologique tout à fait original. Mais je pense que Derrida greffe sans doute sur cette idée justement que Marcel Mauss a analysé à propos de ces phénomènes connus chez les anthropologues, ethnologues sous le terme du potlatch, c'est-à-dire d'un don totalement gratuit, totalement hyperbolique d'ailleurs, mais pour le porter d'un point de vue, dans un point de vue philosophique, qui le fait aller peut-être également à acquérir une dimension qu'il n'a vraisemblablement pas tout à fait dans le mode d'approche anthropologique. Voilà le second point. Alors, le troisième point était sur le rapprochement très intéressant que vous avez fait autour, justement, d'une terminologie dont vous dites qu'elle n'est pas une rencontre de hasard. Effectivement, lorsque vous dites qu'on peut rattacher le nom, le don au présent, et que ce mot de présent qui existe d'une part pour caractériser certains objets que l'on donne, et certains actes d'ailleurs de faire présent en Dieu, est également quelque chose qui entre dans la définition d'une instance du temps, puisque c'est le présent. C'est intéressant de voir effectivement une rencontre. Existe-t-elle dans d'autres langues? Moi, je suis frappé surtout. Je pense que Derrida doit faire le rapprochement, mais puisque je n'ai pas lu le livre, je ne peux que le supposer. C'est à vous de me le dire. on pourrait rapprocher dans d'autres langues de quelque chose d'autre par rapport au don, et en particulier du fameux, de la fameuse expression allemande Esgibt, puisque dans Esgibt, il y a effectivement le geben, il y a le donner, donc c'est un, ça donne qui a une on pourrait dire, une dimension ontologique, c'est-à-dire concerne l'être, puisque c'est le « il y a ». Donc, il y a quelque chose qui à la fois nous fait approcher du côté du présent. Je ne sais pas si en allemand, d'ailleurs, le présent se rencontrerait également à la fois... non, « Gegenwart », on ne peut pas dire.
On
ne peut pas « Gegenwart »
pour exprimer... On l'a en anglais, quoi.
Mais ce Esgibt qui est allemand n'est pas du tout français. Donc là, ça serait par un autre point, une autre langue. Maintenant, je ne dis que cette langue, mais il y en a d'autres. Donc il faudrait savoir si d'autres langues nous font atteindre à une sorte de constellation ou de noyau, de jonction de sens qui permettrait de trouver au cœur de cet entrelacement à la fois le don, l'être, le temps présent, ou quelque chose qui soit de ce qu'on peut appeler une instance du temps, et d'autre part, l'être même, puisque là, c'est lorsqu'il y a don, il y a, au sens propre du terme. Donc le « il y a » ou « l'être » est don. Et effectivement, si l'on pousse les réflexions dans ce sens-là, on est tout de suite, on déborde tout de suite l'acte simplement de donner. On joint par exemple également le don de la vie, enfanter, engendrer, c'est donner. Donc c'est bien donner des choses que l'on n'a pas, c'est-à-dire que le don, c'est pas seulement l'impossible, mais c'est en même temps le fait de donner ce que l'on a d'une certaine manière, mais que l'on n'a pas. C'est-à-dire, si l'on donne la vie, ou une femme qui donne la vie à un enfant, cette vie, elle la vit en elle-même, mais elle n'a pas celle de l'enfant, donc elle donne bien quelque chose qu'elle n'a pas, ou si l'on veut être... Si l'on veut être plus précieux, on dirait, elle ne l'a pas, mais elle l'a en puissance, elle ne l'a pas encore. Ou il l'a, elle l'a en puissance et lui l'aura en acte, si on veut parler à la manière d'Aristote. Mais enfin, dans ce sens-là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, dans le don, déborde largement, effectivement, le domaine de... d'un acte limité, comme lorsque l'on se fait des dons ou des cadeaux d'anniversaire ou cadeaux de premier plan, mais qui donnent en même temps, par répercussion, une force extrêmement grande au moindre des actes qui peut être considéré comme un acte de don, et non pas comme un acte d'échange. Donc c'est ce que je verrai un peu dans votre exposé, ces trois voies ou ces trois possibilités de très grande richesse que l'on peut trouver dans l'exploration de quelque chose comme le don. D'ailleurs chez Derrida, c'est ça, il prend une notion et tout à coup fait découvrir par voie d'analyse ou de ce qu'il appelle déconstruction un nombre considérable de voies, puisque sa méthode n'est pas une méthode dialectique comme il le dit, c'est une méthode de déconstruction, c'est-à-dire de surgissement, de dépliement. Il y a un petit texte tout petit, mais qui est très intéressant, où il analyse le « et ». Et, non pas EST, mais le et. D'ailleurs, il donne à ce et hein, une dimension aussi grande que, et aussi ontologique qu'au et EST, l'égal même, puisque c'est et, etc. C'est-à-dire, on va se dire quelque chose qui nous ouvre une quantité de perspective.
Oui, ce qui est particulier quand même à la déconstruction, moi j'ai choisi de faire un petit peu cette introduction à partir de la question du don, parce que je trouve qu'en même temps ça permet d'être une mise en œuvre de cette démarche hein, qui est la déconstruction, voilà, qui est à la fois je sais pas s'il faut dire une méthode, je crois que je suis pas sûr que le mot soit très juste, un travail par lequel Derrida se reporte dans les s'installe au sein d'un certain nombre de concepts, de textes, et par un travail effectivement de désintrication ou au contraire d'exhibition de la façon dont ces concepts sont intriqués et présupposent un certain nombre d'éléments va arriver non pas simplement à une sorte de démontage pour arriver à des fondements, pour vérifier que ces fondements seraient bien construits et bien solides, mais au contraire, au fond, montrer la façon dont ces fondements sont en relation, et qu'en même temps, au fond, sont travaillés par une forme d'écart, et ce qui l'intéresse, c'est d'accéder à cette dimension d'un écart essentiel et irréductible, puisque c'est l'écart qui se joue dans l'impossibilité même de les penser, mais qui fonde la possibilité en même temps de les penser. Et voilà, c'est tout le... Donc c'est ça qui est propre à la déconstruction. Parce que souvent on utilise ce terme aujourd'hui, c'est même devenu un terme assez presque courant, hein, déconstruire, etc. Bon. Alors que l'idée n'est pas simplement d'exhiber hein, les mécanismes d'une pensée, mais c'est bien en même temps de renvoyer à cette vérité d'un fond sans fond, hein, cette vérité, comme dirait Heidegger, qui s'excède en elle-même ou en retrait d'elle-même, qui nous fait endurer hein, une forme d'impossibilité. Ce que vous disiez justement sur l'impossibilité du pardon, c'est seulement dans l'endurance de l'impossibilité du pardon qu'un pardon est possible. Voilà. Parce que si le pardon est possible, s'il est donné comme possible, si je peux donner des raisons du pardon, mais on n'est plus dans du pardon. Voilà. Je suis plus dans du pardon. Ouais. Je suis dans du, peut-être, je sais pas, je peux être dans du juridique. Ouais. Je vais pouvoir exhiber des causes, des raisons, des textes, des justifications. Et c'est plus du pardon. L'acte de pardon est annulé. Oui. Je ne sais pas où il veut nous emmener. Bon, je ne sais pas s'il veut, Est-ce qu'il veut nous emmener quelque part? Je ne sais pas, peut-être que... Voyons, justement, on est aussi dans un événement de pensée, et justement, ce qui fait un événement de pensée, c'est que ça surgit. Ça donne à penser, mais justement, on ne pouvait pas le déduire, ce qu'il donne à penser. Voilà. Bon, donc, et lui-même, je crois, est pris dans dans une pensée qui vraiment lui donne à penser. Je ne sais pas s'il veut que ça aille quelque part. Ouais, bon, mais par rapport à ce que vous dites sur le fait que le don serait galvaudé et au fond qu'il n'y aurait plus de don, quoi. Bon, d'une part, et puis la première chose que vous avez dite qui était que finalement ce don serait impossible et donc il n'existerait pas, quoi, au fond, hein, c'est ça. Que... Ah, si. Alors c'est ça qui est difficile, hein, c'est de. Il s'agit pas. C'est une pensée du paradoxe et donc il s'agit pas d'annuler un des termes du paradoxe. Ouais. Il s'agit d'endurer l'impossible. Ouais. Il s'agit d'endurer le sans commune mesure, ce à quoi notre pensée ne peut pas se rapporter par une mesure dont elle serait en possession. Bon. Alors, il s'agit de se rapporter à l'impossible. Donc, le don est l'impossible, mais c'est parce qu'il est l'impossible qu'il y a possibilité du don, si je veux dire. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de don. C'est qu'il y a du don que sur le mode de l'impossibilité. Vous voyez, c'est un peu... Voilà, il y a du désir, vous voyez, il y a de l'amour, pas sur le mode de ce que je prévois, de ce que je... Vous voyez, il y a l'amour en acte, ouais, puisque vous parliez d'acte, que dans un événement, que dans quelque chose qui, vous voyez, me dessaisit de quelque chose qui serait un simple rapport de jouissance dans une relation à l'objet fantasmé, quoi, vous voyez. Il y a l'amour que dans une forme d'effondrement de ce qui fait à la fois le temps, surprise de l'amour, effectivement, comme, bon, mais dans ce qui fait mon identité, de ce que j'identifiais comme l'objet attendu de ma satisfaction, enfin oui, en tout cas de ce que j'en escomptais, quoi. Bon. Bah, pour dire simplement qu'au fond, cette question de l'impossibilité qu'on endure, on l'endure tous. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour ou qu'il n'y ait pas de don. Simplement, c'est l'événement d'une contrariété absolue, quoi. Ouais. Contrariété par rapport à mon attente, par rapport à ce que j'identifie de l'autre, de moi, de ce que je pouvais donner, de ce que c'est que donner, etc. Voilà. Et sur le fait qu'il y ait qu'aujourd'hui on soit que dans l'échange. Bon, c'est intéressant, ça me fait penser à... Oui, bien sûr, c'est vrai, hein, c'est vrai. Notre système économique, la façon dont l'économie nous pense comme des sujets économiques rationnels, c'est-à-dire en fait des sujets calculateurs. Hein, ça me fait penser à la. Enfin, c'est les deux choses que vous avez dit, hein, c'est impossible. Et la réalité de notre économie, c'est que ouais, nous sommes toujours en échange à un texte de quelqu'un qui s'appelle Alain Caillé. Et Alain Caillé, c'est un des fondateurs, hein, du MOS, qui est le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Donc, qui mène toute une lutte, tout un combat, toute une réflexion, hein, parce que c'est un sociologue, hein, Alain Caillé, hein, avec d'autres, hein, donc sociologue-anthropologue, hein, plutôt, pour mener tout un travail très critique autour d'une collection, hein, le du Mauss, hein, justement, toute une critique contre l'utilitarisme, quoi, et, la, bon, et cette, cette façon dont, on, dont, dont cette pensée domine, quoi. Hein. Et c'est intéressant parce que, il mène une critique, Alain Caillé, dans un livre s'intitule, si je me rappelle bien, Don, désintéressement, peut-être don, échange, désintéressement, don, intérêt, désintéressement. Il mène une critique à l'égard de Derrida, qui est assez, qui rejoint ce que, enfin, quelque part ce que vous dites, ce que, si je la résume, hein, très rapidement, hein, il dit que la modernité, et il situe la modernité, disons, à la, autour des guerres de religion, la Renaissance, bon, a dissocié ce qu'autrefois, hein, dit-il, on pensait ensemble. Et notamment, dans cette dissociation, il y a le don et l'intérêt. Et on voit bien, hein, effectivement, dans le protestantisme, hein, comment on va opposer, hein, on va condamner tout le système des indulgences, par exemple, hein, comme on pouvait, oui, condamnant l'idée qu'on puisse racheter ses péchés en monnaie, même si on en est trébuchante, vous voyez, bon, comment on va être, du coup, aussi dans une pensée de la grâce, dans une pensée, bon, bref. Il situe dans le cadre de cette séparation radicale entre ce qui d'un côté relèverait d'une logique de l'intérêt et de l'autre côté d'une logique du don, il situe finalement la pensée d'Derrida et il la situe même comme l'un des termes d'une opposition qui trouverait, si vous voulez, à l'autre terme, la pensée de Pierre Bourdieu. Alors, pourquoi d'un côté Pierre Bourdieu et pourquoi de l'autre côté Derrida? Parce qu'il mène aussi une critique, ouais, de front, à la fois de Derrida et de Pierre Bourdieu, en disant, Pierre Bourdieu, au fond, ce qu'il développe, c'est une critique des inégalités sociales, d'un certain, de tout un, comment dire, de toute une forme de reproduction, bon, qui passe par... non pas seulement du capital économique, mais du capital culturel, du capital symbolique, etc. Ouais. Mais au fond, dans les catégories d'une logique qui est celle de l'intérêt. Voilà. Au fond, Pierre Bourdieu se livrait à un travail, de démasquage finalement de ce qui derrière un certain nombre de d'enjeux culturels, je sais pas, d'amour de l'art, de construction du champ littéraire, derrière ça, derrière tout ce discours appelant d'ailleurs au thème de la gratuité, du don d'ailleurs, hein, y aurait derrière ça, au fond, une raison calculante, hein, un calcul. Pas toujours conscient, voilà. Mais au fond, il y aura un calcul intéressé, au fond, je sais pas, sur l'art, pour dire les choses un peu brutalement, une certaine population en position de domination, je caricature, mais enfin, ça touche à ça quand même, une population en position de domination tendrait à référer au fond sa sensibilité, ses goûts, ce qui la fait vivre essentiellement, ce qui fait sens pour elle, à la dimension de l'esthétique et donc à la dimension de toute une gratuité, à la dimension d'une distinction qui s'opère dans le goût. Et comme on sait, ben le goût, ça s'apprend pas ou il suffit pas en tout cas d'être cultivé pour avoir du goût, etc. Bon, bref. Donc, et derrière par exemple, cet amour de l'art, au fond, il y aurait toute une façon de couper court à la possibilité de s'interroger en termes de, alors là, de causes très précises, de causes sociales, économiques très précises, qui font que un certain nombre d'individus sont en position de domination sociale. Ouais, bon, bref, tout un ordre symbolique qui finalement est là pour masquer des rapports de domination sociale, économique. Bon. Et Bourdieu, au fond, ne cesse, hein, de faire ce travail de démasquage, quoi. Mais finalement, chez Bourdieu, Il n'y a jamais de pensée du don. Il n'y a jamais de pensée du don. Il ne peut pas penser le don parce qu'il n'y a toujours que l'intérêt. Parce que dès qu'un individu est un individu social, c'est-à-dire tout le temps, eh bien, il rentre dans un certain nombre de circulations et de rapports d'échange et qui sont, du coup, des rapports de calcul, quoi. Et des rapports de pouvoir, bon. Donc le don est impossible chez Bourdieu parce que au fond Bourdieu abuse d'une comment dire enfin abuse d'une position qui serait celle du cynisme réaliste quoi. Et de l'autre côté il y aurait Derrida. Alors dont il nous dit justement voilà donc pour Bourdieu il y a que l'échange et que il y a que du calcul au fond. Et pour Derrida, eh bien, le don serait impossible. Bon, et il nous dit, mais justement, ben oui, il est impossible. En fait, ces deux pensées, hein, à front renversé, ne sont que les deux faces d'une même pièce, quoi. C'est-à-dire, ne sont que les deux faces d'une dissociation première, hein, qui est celle justement qu'a opéré la modernité. Hein. Et cette dissociation est celle qui nous interdit, qui nous empêche aujourd'hui de penser positivement le don et de penser que nous sommes des êtres de don, nous dit-il. Bon, c'est une pensée intéressante. Hein. Et du coup, il revient, parce que le texte fondateur quand même de ce mouvement, hein, c'est justement l'essai sur le don de Marcel Mauss, auquel on est cher à se référer, hein, qui est un texte très important. Et il nous dit, mais Derrida, puisque Derrida mène une critique, au fond, hein, à l'égard de une critique, comment dire, une critique à la façon de Derrida, c'est-à-dire en même temps extrêmement tolérante, extrêmement ouverte, hein, à toute la richesse du texte, mais c'est même une critique à l'égard de la pensée de Marcel Mauss, puisque il dit qu'au fond, chez Marcel Mauss, il y aurait pour le moins de l'ambiguïté. Et pas une ambiguïté si pas très positive pour le coup, parce que justement Marcel Mauss parle du don, mais il parle de l'échange des dons. Il parle quasiment d'une économie du don, hein, du don et du contre-don. Et c'est vrai que le terme d'échange intervient souvent. Et du coup Derrida dit mais finalement voilà Marcel Mauss utilise ce terme de don et en même temps finalement ne cesse de trahir hein, le son sens quoi. Voilà. Alors Caillé hein, là-dessus, lui critique la critique de Derrida en disant donc mais c'est la dissociation qu'opère Derrida, la dissociation radicale qu'il opère entre ce qui serait de l'ordre du don et ce qui serait de l'ordre de l'intérêt, qui fait qu'effectivement le don est impossible pour Derrida. Bon. Il dit, mais en réalité, il ne faut pas dissocier absolument ces termes. Hein, Caillé dit ça, il a Caillé. Il dit que tout de même, Derrida dit qu'il ne faut pas identifier un don, hein, qu'il ne faut pas savoir ce qu'on donne, il ne faut pas même savoir qu'on donne, etc. Voilà quelle serait la dynamique du don, si je puis dire, enfin, le sens hein, qu'il porte, qu'il nous dit, mais pour donner quelque chose, il faut avoir quelque chose à donner. Il faut bien que j'évalue ce que j'ai. Voilà. C'est parce que j'évalue ce que j'ai que ça me coûte et que je peux le donner. Bon, oui. Ah, c'est très... C'est
serait toujours associé à une forme de symptomatique relative à une problématique personnelle qu'on projeterait dans l'autre. Donc, je me demandais si c'était une réponse par l'économie. Et on n'a pas parlé de Baudrillard, qui, pour l'instant, dans la chanson, de plus vers proche, puisqu'il échange un petit peu de vie.
J'ai pas lu le. Je me rappelle avoir lu un article de Derrida, de Baudrillard. Là. Oui, je me rappelle l'échange symbolique et la mort, etc. Oui. Sur ce point-là, je pense, oui. Donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Quoi. Bon.
Or là, on est dans, on donne sans le savoir finalement le véritable don, c'est hors du calcul. Mais alors, il y a bien quelqu'un à un moment donné qui dit qu'il a un don véritable. Oui, parce qu'on est tout dans le paradoxe.
Oui, mais c'est bien. Mais alors, ça fait ça.
Qui dit qu'il y a eu don en fait? Comment on sait qu'il y a un don véritable? Impossible, mais finalement, il y a une impossibilité de réaliser.
J'ai l'impression que ta question, c'est comment sortir du paradoxe, quoi. Un peu. Et toute la question, c'est qu'on n'en sort pas, hein, c'est de ne pas en sortir, quoi. Oui, mais justement, si ce sont deux intérêts, justement, ça, on serait plus dans du don, c'est tout le problème.
Non, mais deux intérêts, deux satisfactions qui sont très personnelles, en fait. Et que les sens là-dedans, je ne sais pas si ça a vraiment la valeur.
Ça déchappe complètement. C'est même pas qu'il a donné, c'est la donnée. Bon, c'est même pas qu'il est dans le don.
Oui, mais est-ce que c'est pas ça le désir? Est-ce que c'est tout, ouais, c'est toute la... Mais on sait bien que parfois, quand même, on donne et on comprend que ce qu'on a donné... Vous savez, comme on dit, c'est un cadeau empoisonné. Vous savez que dans un certain nombre de langues, par exemple en allemand, hein, der Gift, hein, c'est le don et c'est le poison aussi. Bon, c'est-à-dire, on connaît tout ça. On nous donne et on est écrasé par le don. C'est bon. Et on est obligé de rendre plus. Enfin, il y a ce phénomène de surenchère qu'on retrouve dans le potlatch, au fond. Hein. Potlatch, faut pouvoir rendre. Hein. On est défié aussi. Hein. Oui, non mais Henri, bien sûr. Non mais celui-ci, je veux dire, on sait très bien tous que quand même, enfin vous savez, faut protéger moi de mes amis, quoi. C'est tuant tout ce qu'on nous donne. Non mais c'est bien sûr, je veux dire. C'est tuant l'amour. À quel point ça nous manque, parce qu'on se trompe, ça nous tue, ça je veux dire, ça nous met dans des états de parfois de haine terrible. À quel point on nous donne et on nous manque. On a l'impression, vous savez tout ça. Bon, des choses, on est là-dedans en permanence, quoi. Je veux dire, on maîtrise pas du tout le don. Et quand on veut le maîtriser, c'est là que c'est le pire, quoi. Enfin, voilà. Enfin, c'est intéressant, parce que la question du potlatch, il y a quand même une espèce d'ambiguïté. Bon, il y a un autre penseur quand même, hein, qui est un grand penseur de l'impossible, qui est Bataille, hein, Georges Bataille, quand même beaucoup pensé, lui, justement, à partir aussi du texte de Marcel Mauss. C'est ce qui avait frappé Bataille dans le texte de Marcel Mauss, c'est pas dans ce texte-là, d'ailleurs, c'est dans un autre texte, dans des notes, je crois. C'est que Marcel Mauss disait « L'interdit est fait pour être violé. » Alors bon, ce qui ouvre à toute la logique de la question de la transgression, quoi. Hein. Voilà. Il y a l'interdit, mais en même temps, ce qui fait le sens de l'interdit, c'est quand même qui nous porte à la limite, quoi. Et qui a du désir, qui a du sens, que parce qu'on s'expose à ce qui fait limite absolument. Bon. Mais c'est intéressant qu'il ait pensé lui aussi à partir de Mauss quand même et de et au fond cette question du don, hein, du don et du contre-don, quoi. Mais il y aurait sûrement, hein, il y aurait quand même un travail à faire là sur la façon dont le don défie. Bon, d'ailleurs, M. Scherrer, vous avez peut-être. Moi, je sais pas. J'ai travaillé beaucoup sur Bataille, genre Bataille, mais c'est. Hein, qu'est-ce qu'on donne, hein, justement, hein, en... Qu'est-ce qu'on donne, hein? Qu'est-ce qu'on donne vraiment, c'est. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un brouillage dans les différents éléments de... du verbe m'abonner ou du mot don. C'est-à-dire que rien n'indique que le verbe donner, le mot, implique par lui-même ce dont vous êtes parti, à savoir celui qui donne la chose et l'autre à qui on donne. Le verbe donner, il n'implique absolument pas ça. Par exemple, quand je peux aussi bien dire Jean me donne des bonbons, ça va rendre la définition proposée, je peux aussi bien dire s'il m'énerve beaucoup, je peux dire Jean me donne des boutons. Ça veut simplement dire que je deviens, de par sa présence, le lieu de construction des en même temps, me semble-t-il, touche à des éléments de la discussion, c'est-à-dire, voyons voir ce que ça donne, quelque chose émerge sans que nécessairement on ait pu le prévoir, sans qu'on ait quelque chose émerge dans l'instant, ça se met dans une. Donc il y a beaucoup de choses qui, à la fois, dans les discussions, poussent bien au mot, de même pour le mot don, pour le mot don, par exemple, il y a une expression qui est assez courante qui est révélateur de beaucoup de choses qui ont été discutées. Quand on dit c'est un don du ciel, et c'est un don du ciel, ça veut précisément dire qu'il n'y a pas de discuter, il vient de nulle part, il est là, on n'est précisément pas dans cette logique du recevoir, c'est pas vraiment qu'on reçoit un don, c'est qu'il est là. Et donc le mot don par lui-même n'implique absolument pas une logique de l'échange ni de l'économie, et cette sorte de réflexion du don comme impossible me semble tenir au fait même, en partie, au fait même que le verbe donner ne dit absolument rien par lui-même de quelque chose de l'ordre d'un échange ni d'une économie.
Alors, moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec vous là, parce que c'est vrai qu'il y a une extraordinaire richesse des emplois du mot don. Et il n'est pas certain, effectivement, là je vous suivrai, il n'est pas certain qu'on puisse unifier l'ensemble de ces usages, quoi. Bon, il y a donné des coups aussi, bon, hein, et tas de choses. Mais cela dit, d'une part, ça n'empêche pas que ce mot don porte tout de même un certain sens autour, disons, un certain nombre des valeurs, des termes que j'ai essayé de réfléchir, hein, sur lesquels j'ai essayé de m'interroger avec Derrida, et que, de ce point de vue, il y a quand même une cohérence à la pensée de Derrida. Là. Bon. Bah, comme vous dites, on pourrait quand même aussi, dire même quand ça me donne des boutons, c'est quand même qu'il y a un surgissement de l'autre, quoi. Que, je veux dire, il y a quand même un surgissement de quelque chose, d'une altérité, hein, je suis vraiment en proie à l'autre. Bon, bah oui, ça... Vous voyez, je veux dire, on pourrait, hein, peut-être qu'on dit pas ça tout à fait, ça ne surgit pas de nulle part, ça donne, quand ça donne des boutons. Hein. Parce que vous êtes sur l'idée tout à l'heure, c'est-à-dire que
ça donne, je suis persuadé que dans le donné, il y a l'idée que ça fait quelque chose d'un sujet. Ça me paraît absolument essentiel. Donné nous dit qu'il y a affectation par un sujet de quelque chose qui surgit. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le dire en termes d'échange me paraît excéder ou trop étroitement spécifié ce que dit le verbe donner. Je n'étais pas du tout en cause là-dedans l'intérêt de ce que propose Derrida. Je dis attention à ce que dans la discussion, il n'y a pas un brouillage qui est lié à une analyse trop étroite du verbe. Ça peut dans ça, je n'ai pas ça. Si, ah bah si, beaucoup de temps. Non, du verbe et du nom. On réécoutera
sur cette question du don dans son rapport à l'échange, c'est un rapport négatif, de contradiction. Moi, j'ai pas dit que le don, justement, c'est la critique de Derrida à l'égard de Mauss, elle porte sur ce type d'expression, l'échange de dons. Et Derrida dit, mais le don, c'est ce qui contrarie une logique de l'échange. Donc,
il y a bien un rapport entre les deux, parce que là, vous mentionnez précisément chez Mauss, du point de vue de l'analyse proprement anthropologique, ethnologique, il est incontestable que il a exposé l'économie, il a exposé le don, mais dans le cadre d'une économie différente. C'est-à-dire la taille aussi, par exemple, dans la Parnodie, ou lorsqu'il parle de l'économie de la défense, mais ça entre toujours dans le... Ce n'est pas effectivement quelque chose qui appartient à l'économie de l'échange économique de l'homme civilisé, de l'homme moderne. Maintenant, ça, c'est bien une économie malgré tout, puisque lorsqu'il y a ces dons excessifs d'après l'époque latte, c'est bien quelque chose qui est en vue de d'obtenir soit une domination sur autrui, au moment où l'autre personne ne peut pas du tout répondre, ou alors attendre qu'il y ait également de la part d'autrui un don, et également de cette façon un don réciproque, donc il y a bien une certaine manière de lier, si l'on veut pas un échange, mais c'est quelque chose qui lie les individus, d'ailleurs, d'une façon plus profonde que l'échange. Le sacrifice au Dieu est également de la nature du don. Mais ce sacrifice qui fait que l'on donne, mais on donne pour recevoir également des bienfaits. Donc c'est bien quelque chose qui, sans avoir la nature de l'échange économique, relève d'une autre forme d'économie. Maintenant, ce qu'il y a, donc il y a une certaine ambiguïté également dans le don, à moins que l'on le qualifie, on pourrait dire, il y a don totalement gratuit, don sans retour, sans espoir de retour, c'est ça, ou alors des sacrifices qui ne seraient pas faits dans l'attente d'un bienfait que l'on espérerait de la part des divinités. Mais ce qu'il y a malgré tout commun, je pense, à mon avis, dans cette idée de don, que comme vous disiez, il faut préciser, parce que le champ de signification, et d'étymologie est tellement grand qu'effectivement ce sont de ces mots dont, si l'on en explore les applications, on va tout à coup être submergé par l'ampleur du champ sémantique. Mais il y a toujours, je crois, quelque chose qui est de la nature de ce que j'appellerais l'exposition, c'est-à-dire l'offrande, quelque chose qui fait que dans le don, il y a un acte d'aller vers. C'est pas tellement dans le don, ce qui importe, à mon sens, c'est pas tellement la quantité ou la nature de ce que l'on donne, mais c'est le fait que l'on n'est pas contenu en quelque sorte, renfermé sur soi-même, mais qu'on va au-dedans. On va vers ce que le mot d'offrande, oblation, c'est-à-dire quelque chose qui porte en avant, qui est également de la nature de l'exposition, et non pas simplement de la du don en tant que transmettre à quelqu'un ce que l'on possède. De sorte que c'est dans la mesure où l'on s'expose. C'est-à-dire s'exposer, ça veut dire aussi se proposer, se porter en avant, se livrer, c'est-à-dire ne plus exister dans une réserve, dans un retrait de soi-même, dans une réserve intime. C'est ça qu'il y a, à mon avis, de commun chaque fois que l'on envisage la notion de don. C'est pour ça que quand je faisais allusion à cette particularité propre à l'allemand, mais non, qui n'est peut-être pas uniquement propre à lui, du est-ce pour dire, il y a, c'est bien quelque chose aussi qui est dans l'exposition, c'est-à-dire, ça se donne, se donner, c'est ne plus rester sur sa réserve, c'est se livrer, en quelque sorte.
Oui, en plus, c'est ce... Oui, parce que Jean-Luc Nancy utilise ce...
Oui. N'est pas quelque chose, effectivement, qui se mesure quantitativement, ni qui reste, qui reste dans les limites d'un pur échange économique. C'est par là, peut-être, que le don échappe à cette sphère de l'économie, mais il la recouvre quand même dans une certaine partie. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui appartient à une économie considérée généralisée, comme dirait Bataille, mais qui renforce malgré tout le domaine économique entendu dans ce sens-là.
Et moi, je me demande s'il n'y a pas... Comment dire, c'est justement, par exemple, est-ce que c'est chez Georges Bataille, est-ce que c'est pas aussi espèce de difficulté hein, qu'il a rencontré avec laquelle il a pas cessé de se débattre au fond que au fond la logique de la transgression au fond retombe dans une logique hein, et le rapport le couple interdit transgression finalement devient une sorte de couple dialectique quoi hein, quelque chose de dialectique tout simplement et finalement on retombe dans effectivement une économie qui, mais qui pour lui justement enfin et serait perte hein, de ce qu'il cherche, de ce qu'il veut penser quoi. C'est-à-dire est-ce que quand même dès lors qu'on pense en termes économiques et effectivement dès lors qu'on pense le sacrifice en vue d'obtenir au fond un bienfait des dieux quel qu'il soit quoi, est-ce que dès lors est-ce qu'on est encore dans du don? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire, moi, je sais pas, je suis pas certain justement qu'on puisse faire glisser, même modestement, le don du côté de l'économie. Et voilà, c'est. Oui, bien.
Il n'est pas dans cette déconstruction de l'économie dans l'utopie, dans cette société utopique, mais effectivement, peut-être à ce moment-là que le don peut avoir une présence plus quantifiable, si jamais c'est possible.
Mais quantifiable, je crois pas, parce que c'est cette communauté, c'est pas grand-chose, ça fonctionne autour d'une revue, enfin bon, c'est. Mais enfin, c'est une espèce de communauté du secret, tout ça. Enfin, c'est très bon. Tout ce travail autour d'Acéphale, tout ça. Enfin, bon, c'est très. Je vois pas bien par rapport à la question de la prise de pouvoir. Bon, parce que c'est quand même. On est vraiment dans une pensée. Quoi, je sais pas comment. Foucault utilise l'expression d'un pouvoir. Mais un pouvoir. Enfin, oui, l'Acéphale, c'est vraiment quand même ce qui est en tête, quoi. Je ne sais pas. Il semble que chez Bataille, quand même, ce qui fascine beaucoup, c'est dans les textes d'anthropologie, d'ethnologie, c'est quand même cette façon qu'ont certaines sociétés de travailler, apparemment elle travaille, il y a, bon, on travaille toute l'année, on économise, on engrange, on connaît bien les règles de l'agriculture, enfin bon, donc on a une mémoire aussi, on a des savoirs, on a des transmissions, et puis à un moment donné de l'année, on brûle tout. Voilà, mais alors oui, voilà, mais pour rien, voilà, et c'est ça qui le, c'est quand même ça qui fait. Oui, mais ça, je crois pas que ce soit ce qui, comment dire, la lecture ou ce que va retenir Bataille. C'est ce que retiendrait plutôt, comment il s'appelle, cet auteur qui a écrit La société contre l'État, enfin, voilà, Pierre Clastre, tout ça. Moi, je crois que ce qui intéresse Bataille, c'est quand même le fait que, il y ait quand même un mouvement, souverain par lequel, on rompt avec un ordre qui est celui du temps, justement du temps de la montre, c'est-à-dire du temps comptable, du temps dans lequel on se projette, et cet ordre du temps finalement qui est à la fois l'ordre de la mémoire, le temps de la mémoire et le temps du projet, et finalement engage une forme de limite, hein, de calcul, du désir, de on retient, on s'engage pas, on fait les choses en fonction de certains projets, en fonction de certains rythmes, etc. Et ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait ces mouvements alors d'exposition effectivement à l'autre et d'exposition, c'est aussi d'exposition des peaux, enfin, vous voyez, d'exposition à cette surface, hein, de retrait absolu de l'intime, et d'où tout cet ordre qui va être celui de la limite du désir et finalement d'une forme de perte de soi, enfin. Bon, et ce qu'il travaille quand même, il me semble, au début, qui va, c'est quand même cette pour lui, peut-être qu'on peut en discuter, hein, d'ailleurs, la réalité de ce que repère un certain nombre d'ethnologues, effectivement. Est-ce que ça correspond exactement à ce que retient Bataille, ça. Mais en tout cas, ce qui le fascine, c'est cette idée que, dans ces mouvements de transgression, vraiment, on soit dans l'aneconomique absolue, quoi. Qu'est-ce qu'on donne vraiment?
Mais j'ai remarqué.
Non, mais c'est une bonne remarque.
J'y pensais, avec l'exposition au fond, chez les petits-enfants, si vous avez remarqué, en général, ils donnent toujours. Et le geste de donner est en même temps un geste de montrer. De sorte que dans le don, c'est ça un peu cette exposition. C'est-à-dire. Il y a quelque chose d'aller vers l'autre, de donner. C'est ensuite, alors que parce que on leur dit, il y a également le geste de prendre. Mais je crois que le geste de donner est également un geste tout à fait fondamental. Mais ensuite, on les réprimande à ce sujet, ou alors ils apprennent justement à garder pour eux. Mais je crois que le don est dans une certaine mesure un geste plus fondamentalement affirmatif et significatif de la du geste humain que le fait de s'approprier. Je pense que c'est quelque chose qui est plus originaire, si l'on peut dire, que la propriété. C'est quelque chose de premier par rapport à la propriété de l'homme.
Ça me rappelle
qu'est-ce que fait le petit enfant, généralement, donc il tient, il montre, il veut effectivement que les autres le voient, mais en même temps le prennent. Maintenant, là, je n'irai pas me hasarder dans cette psychologie infantile. Il faudrait vérifier, mais je crois que le geste de don est tout à fait primordial.
Oui, sûrement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui touche, en tout cas. Hein, en tout cas, ouais. Ah oui, en sens. Ça me rappelle en tout cas une histoire. Non, mais c'est très simple. Une histoire qui est celle d'un. C'est un enfant, je vous raconter une histoire. C'est un enfant que sa mère ramène tous les soirs, elle va le chercher à l'école, et elle lui, une fois rentrée à la maison, il y a toujours un moment où elle ouvre la porte du placard, il y a là des paquets de bonbons, et elle lui, l'enfant lui demande à un moment, excusez-moi, il lui dit, maman, est-ce que tu peux me donner un bonbon? Et la mère lui dit, oui, je peux te donner un bonbon. Tu étais sage, tout ça. Et donc elle ouvre la porte du placard, elle prend un bonbon et lui donne un bonbon. Voilà, ton bonbon. Et ça se répète tous les soirs. C'est une espèce de rituel. Et un jour, la mère, avant d'aller à l'école, un peu de temps, elle va dans le supermarché et achète et des bonbons en promotion, parce qu'il passe par la tête, faire vraiment peut-être vraiment plaisir à son enfant, elle achète des énormes paquets de bonbons. Et donc, elle va chercher son enfant à l'école le soir, elle le ramène à la maison, et le moment venu, l'enfant dit, maman, est-ce que je pourrais avoir un bonbon? Et la mère lui dit, mais tu peux même pouvoir avoir plus. Et elle lui donne ces énormes paquets de bonbons. Et l'enfant pleure. Voilà. L'enfant pleure. Et il pleure et dans ses hoquets, au bout d'un moment, la mère arrive un peu à percevoir, pourquoi tu pleures, tu as tout ce que tu veux. T'as encore plus de bonbons, tu pourras les prendre quand tu voudras. T'auras même plus besoin de demander. L'enfant lui dit, mais moi ce que je voulais, c'était te demander un bonbon. C'est pas avoir des bonbons, c'est te demander un bonbon. Voilà, c'est une histoire simple. Ça ressurgit comme ça. Je me rappelle d'avoir raconté cette histoire à des élèves de terminale pour, par exemple, faire la différence entre le besoin et le désir. Mais c'est par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce qu'un don et qu'est-ce qu'on donne? Oui, ici on voit bien qu'il ne s'agit pas du bonbon en soi, au fond, mais de ce qu'il porte. Et qu'est-ce qu'il porte? Il porte la mère, mais qui n'est pas une chose, qui est en même temps l'amour de la mère, le don de la mère, mais qui est. Ah oui, mais là c'est du oui. Ouais, ouais. Bon. On va peut-être arrêter là, non? Bon, je remercie beaucoup en tout cas. Merci.